Dans le cadre des semaines de l'égalité 2025 de Saint-Étienne Métropole, Radio Ondaine vous invite à écouter Les Ondes de l'Égalité, une série d'émissions, de reportages, de captations et d'interviews sur le 90.9 FM en DAB sur Radio Ondaine et sur le www.radio-ondaine.fr.
Le 21 mars marque la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Dans le cadre des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole, en mairie de Saint-Étienne, salle Aristide Briand, Sarah Bénichoux, directrice de la promotion de l'égalité et de l'accès aux droits au sein du Défenseur des droits, était invitée pour une conférence. Radio Ondaine vous invite aujourd'hui à écouter, aujourd'hui dans les ondes de l'égalité, les propos de Sarah Bénichoux sur le rôle et les recommandations du Défenseur des droits, notamment dans le cadre des luttes contre les discriminations fondées sur l'origine.
Donc je commence par vous représenter, alors certains nous connaissent déjà, donc ce sera une répétition pour elles et eux, le Défenseur des droits, qui est une autorité administrative indépendante, hein, dont l'existence est consacrée par la Constitution, et il s'agit de la seule autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution, dont le fonctionnement est aujourd'hui régi, pour ceux que ça intéresserait, par une loi organique qui date du 29 mars 2011 et qui détaille nos missions, nos pouvoirs, notamment en matière d'instruction et de solutions qu'on peut apporter aux réclamations qu'on reçoit. Alors le terme de défenseur des droits va désigner aussi bien l'institution que je représente ici que la personne qui préside cette institution et qui est aujourd'hui Claire Hédon, qui est défenseur des droits depuis 20 juillet 2020, qui est nommée par le président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable et non révocable. Ça veut dire que personne ne peut mettre fin à son mandat et c'est ça qui garantit l'indépendance de l'institution. Et évidemment, pour toujours dans la suite de cette idée d'indépendance, le défenseur des droits ne reçoit aucune instruction dans l'exercice de ses attributions. Nous n'avons pas de ministère de tutelle, ni nous recevons de consignes de quiconque. La loi, la fameuse loi organique dont je vous parlais à l'instant de 2011, confie à l'institution deux missions générales, on va dire, qui sont complémentaires. La protection des droits et des libertés, à travers le traitement des réclamations individuelles que l'institution va recevoir, mais aussi la promotion de l'égalité, des droits et des libertés, c'est-à-dire à partir d'études, de rapports que l'institution va produire ou soutenir pour proposer un éclairage sur les atteintes systémiques aux droits et dans lesquelles on va pouvoir formuler des recommandations aux professionnels ou aux pouvoirs publics qui sont concernés pour essayer de résoudre, de corriger ou de prévenir ces atteintes structurelles qu'on a identifiées. Ces deux missions, donc protection, promotion, elle s'incarne à travers nos 5 champs, nos 5 domaines de compétences. Je vous les rappelle, même si évidemment parmi eux il y a la lutte contre les discriminations, parce qu'en fait on peut mobiliser des expertises dans chacun de ces domaines de compétences au service de la lutte contre les discriminations. Donc le premier domaine, qui est celui sur lequel nous avons vraiment la plus grande masse de nos réclamations, c'est la question de la défense des droits et des libertés des usagers, donc les usagers dans le cadre de leurs relations avec les administrations, qu'il s'agisse des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des services publics nationaux ou locaux, donc un litige avec les impôts, avec la CAF, avec la préfecture, etc. La deuxième grande mission, ça va être la défense et la promotion de l'intérêt supérieur et des droits de l'enfant, donc un rôle très important, et vous pouvez assez vite imaginer comment la question des discriminations desquelles touchent les mineurs va traverser évidemment la question des droits de l'enfant. Enfin, une mission sur la question de respect de la déontologie par les forces de sécurité, tout ce qui est police, gendarmerie, services de sécurité privée, douane, etc., qui ont donc des règles déontologiques à suivre, dont le défenseur des droits est l'organisme indépendant de suivi de respect de ces règles. Donc tout ce qui est autour des contrôles d'identité, du contrôle aux frontières, des fouilles, des refus de plainte ou des violences policières, de l'accès encore aux soins, par exemple en prison, tout ça, évidemment, on est compétent au titre de cette mission de la déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité. Et puis, la fameuse mission pour laquelle je suis évidemment présente, la lutte contre les discriminations, directes ou indirectes, toutes les discriminations qui sont prohibées par la loi ou par un engagement international, et la promotion de l'égalité, évidemment, qui est son pendant. Et enfin, une dernière mission qui a été ajoutée en 2016, qui est l'information et le conseil des lanceurs d'alerte, ou qu'on peut également orienter vers les autorités compétentes. Et là, à nouveau, ça peut connecter avec le sujet des discriminations pour des personnes qui seraient témoins de discriminations, par exemple, structurelles au sein d'une structure. Donc vous voyez que l'ensemble de ces domaines de compétences offre aux défenseurs des droits un panorama assez large des fractures qui peuvent traverser notre société. Et en ce sens, le défenseur des droits, il a été conçu en complémentarité avec ce que les juridictions peuvent faire pour rendre les droits plus accessibles à tous et à toutes. Cette mission, elle s'incarne, j'allais dire, au siège dont je suis la représentante parisienne, mais également c'est une mission de proximité. Au-delà des agents donc du siège, on va avoir des pôles régionaux. Donc mon collègue Albin a déjà été cité, Albin Meynier, qui est un des membres de nos agents en région. Et puis on a un réseau dans toute la France de 620 délégués qui tiennent des permanences dans toute une série de lieux de permanence pour accompagner les réclamants et notamment les accompagner en médiation. Et évidemment, on salue notamment Albert Thibault qui est présent, qui est un délégué ici, mais qui, on a des permanences, je ne vais pas citer tous les noms, mais à la MJD de Saint-Étienne, au PIMS Médiation Métropole Cotonne-Montferré, au PIMS Médiation Métropole Montenegro, ou encore à la préfecture de la Loire. Donc on est présent plus localement. Et on a également, enfin, des JAD, des jeunes ambassadeurs des droits de l'enfant. On a 4 JAD qui sont présents sur le département pour promouvoir les droits de l'enfant. Et la question, évidemment, de l'égalité fait partie intégrante. C'est un des grands principes qui traverse notamment la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc vous aurez compris que la compétence du défenseur des droits s'appuie sur le droit, mais entend mobiliser tous les leviers pour accompagner la progression et une culture des droits dans notre société. Alors, s'agissant de la lutte contre les discriminations et notamment de la compétence du défenseur des droits, je voulais rappeler que la loi différencie, ne traite pas de la même manière les différentes manifestations du racisme. Donc, les discriminations peuvent être une manière, on va dire, de une forme du racisme, mais il y a bien d'autres, il y a tout un tas d'autres modalités que le droit et la loi et les juges, donc derrière, n'appréhendent pas de la même manière. La discrimination, elle va supposer un traitement défavorable subi par une ou plusieurs personnes en raison d'un des critères prohibés par la loi. Il y en a à peu près 26 aujourd'hui dans la législation française. Et ce traitement désavantageux, il doit intervenir dans un domaine prévu par la loi, déterminé par la loi. Et si on a ces 3 éléments, on est effectivement face à une problématique de discrimination. Élément important, parce que l'erreur est souvent faite, la discrimination directe, qui est interdite en droit français, elle peut être évidemment volontaire, et on peut avoir même parfois des propos assez explicites qui accompagnent ce traitement désavantageux, mais vous avez aussi des discriminations, et c'est même sans doute la majorité, qui se produisent sans volonté, on va dire, ou de nuire, ou intention particulière de désavantager ou d'écarter certaines personnes, mais elle va résulter de la mobilisation inconsciente, de préjugés, de jugements de valeur, d'idées préconçues qu'on va mobiliser à l'encontre donc d'un groupe d'individus. Si on a bien une discrimination intentionnelle, on va dire, et qu'on a la preuve de cette intention, on va évidemment tout à fait pouvoir aller devant les juridictions pénales. Si ce n'est pas le cas, les juges administratifs et civils vont pouvoir se saisir des discriminations, même intentionnelles, en s'intéressant aux seuls effets de la discrimination, et donc en ne s'intéressant pas du tout à la question de l'intention du mise en cause. Et il faut savoir que devant le défenseur des droits, quand on instruit les réclamations, on va aussi avoir ce regard, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux effets des actes ou des pratiques qui sont mis en cause devant nous, et pas à l'intention nécessairement des personnes. J'ajouterais en ce sens que quand on instruit des réclamations, on applique ce qu'on appelle l'aménagement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que la personne va devoir, et nous avec elle, j'allais dire, établir des faits laissant présumer la discrimination, mais elle ne doit pas prouver entièrement toute la discrimination. Si on établit des faits qui laissent présumer la discrimination, le défenseur va se tourner vers le mis en cause, mettons un employeur, et va lui demander de justifier objectivement la différence de pratique qui a été observée. Et ça veut dire, objectivement, ça veut dire évidemment pas à travers un critère de discrimination. Et s'il n'arrive pas à la démontrer objectivement, on conclura, nous, au niveau du défenseur des droits, à la discrimination. Ce sera le cas aussi du juge administratif ou du juge civil. Une fois qu'on a défini ce champ de la discrimination, en espérant que je ne vous ai pas tous perdus, la compétence de l'institution, elle ne s'étend pas à toute une autre série de manifestations du racisme. Par exemple, tout ce qui est autour des propos, des écrits, des images à caractère raciste, anti-musulman ou sexiste, homophobe, tout ça, eh bien, relève de ce qu'on appelle la loi de la presse de 1881. Et ce n'est pas une discrimination en droit et ça ne rentre pas dans le champ de compétence du défenseur. Il en est de même pour tout ce qui est violence, qui peuvent être accompagnées de propos racistes, homophobes, et donc qui seront ce qu'on appelle des violences avec circonstances aggravantes en droit, et qui relèvent bien sûr des délits et des crimes, qui relèvent du code pénal et du juge pénal. Le défenseur, là non plus, n'est pas compétent. Il ne s'agit pas de discrimination au sens du droit et du champ de compétence du défenseur. Néanmoins, évidemment, qu'il y a une relation dans tout ça, et que les discours et les actes racistes vont entretenir des rapports très étroits avec les discriminations. C'est ce qu'on parle d'un continuum du racisme, ou du sexisme, ou de l'homophobie d'ailleurs, etc. Parce que les discours de haine vont venir renforcer les préjugés, les stéréotypes stigmatisants qui vont à leur tour nourrir les discriminations. Donc vous voyez bien le lien qu'il y a entre tout ça. Et d'ailleurs, le droit et la jurisprudence ont un peu intégré cette imbrication en élargissant le concept de discrimination qui était plus étroit auparavant. Je vous l'ai dit, au départ, on avait une vision très pénale, très intentionnelle de la discrimination. Aujourd'hui, on s'intéresse davantage aux effets. Et ce faisant, on a fait entrer dans la catégorie de la discrimination une injonction à discriminer. Je reçois un ordre où on me dit de discriminer. On pourrait considérer que ça relève de l'incitation à la discrimination qui relève du droit de la presse. Eh bien, aujourd'hui, le droit considère que c'est une forme de discrimination, donc le défenseur est compétent. Et c'est la même chose pour les enjeux de harcèlement. Aujourd'hui, quand on a un harcèlement moral qui est lié à un critère de discrimination, on va parler de harcèlement discriminatoire. C'est le cas aussi pour le harcèlement sexuel. C'est une forme de harcèlement discriminatoire. Et donc, le défenseur des droits est compétent. Pour rappel, dernier point sur cette petite cadre juridique et cadre de compétence du défenseur des droits, toute sanction qui serait opposée à une personne qui a dénoncé de bonne foi des problématiques de discrimination, qu'elle soit in fine avérée ou pas, mais à partir du moment où elle a dénoncé ces faits de bonne foi, eh bien toute sanction de cette personne, qu'elle les ait dénoncées en tant que victime ou témoin, sera considérée comme des représailles et comme une forme de discrimination. Et à nouveau, notre institution sera compétente et la sanction, normalement, est illégale en la matière. Dernier point, là je vous ai parlé des discriminations telles que le droit les saisit, mais je voulais aussi vous rappeler, notamment dans le cadre du rapport qu'on avait remis en juin 2020, qui est sur les discriminations fondées sur l'origine, l'urgence d'agir, qui est un rapport important de l'institution, vous rappeler que l'ampleur et la persistance des discriminations fondées sur l'origine en France témoignent d'inégalités cumulatives qui résultent de l'interaction de pratiques volontaires ou non, de pratiques individuelles, mais aussi de problématiques plus structurelles, et que l'ensemble de ces dispositifs viennent porter préjudice à des groupes donnés, et qu'il est donc nécessaire de penser les discriminations dans une dimension systémique, autrement dit dans un cadre d'analyse qui est plus large, des représentations collectives, des rapports sociaux spécifiques et notamment des inégalités socio-économiques qui viennent structurer la société et qui peuvent venir amplifier ces problématiques de discrimination systémique. Alors venons-en maintenant, j'allais dire, aux chiffres un peu quand même, pour se rappeler ensemble l'importance de ces discriminations fondées sur l'origine dans nos sociétés, et notamment leur caractère systémique. Il y a une étude que le défenseur, auquel le défenseur a contribué, modestement, parce que c'est une très très grosse étude, TO2, qui est l'enquête trajectoire et origine, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il y avait une première édition qui remonte à 2008-2009, il y a une seconde édition de cette étude qui a été pilotée par l'INED et l'INSEE, dont les chiffres datent de 2020, qui nous indique qu'en 10 ans, le sentiment de discrimination dans notre société a augmenté, tous critères confondus. Ce qui peut d'ailleurs aussi bien démontrer une plus grande sensibilité aux discriminations que davantage de discriminations en tant que telles, peut-être une combinaison des deux d'ailleurs. On a en 2019-2020, donc la date de TO2, près de 20% des personnes de 18-49 ans qui déclarent avoir subi des discriminations. On était à 14 points en 2008-2009. Et en l'occurrence, les discriminations fondées sur l'origine ont légèrement augmenté. On a dans la dernière enquête, donc TO2, 22% des immigrés et 20% des descendants d'immigrés qui estiment avoir fait l'objet d'un traitement inégalitaire en raison de leur origine. Et pour histoire qu'on comprenne bien qui ça concerne davantage encore, c'est 22% des immigrés et 20% des descendants d'immigrés. Si on regarde les déclarations des personnes originaires d'Afrique subsaharienne, cette proportion monte à un tiers. Donc 30% de ces personnes vont estimer avoir fait l'objet d'un traitement désavantageux, discriminatoire, en raison de leur origine. Un point très important aussi qui est relevé dans Théo2, mais qu'on relève dans d'autres études également, c'est l'augmentation des discriminations fondées sur la religion, l'appartenance religieuse, réelle ou supposée, comme l'indique d'ailleurs le texte de la loi, du code pénal notamment. Elles ont beaucoup augmenté. On avait 5% de personnes qui notamment de personnes de se déclarant de confession musulmane, qui déclaraient avoir rencontré des discriminations fondées sur la religion en 2008-2009. Et dans Théo2, ce taux est monté à 11%. Donc on a une inquiétude sur ce point-là. Théo2, c'est tous les aspects de la vie. Hein. C'est l'ensemble des aspects de la vie qui peuvent être concernés par des discriminations fondées sur l'origine, aussi bien l'emploi, le logement, l'accès aux biens et services, l'éducation, etc., etc. Et on a évidemment des accumulations, on va dire, de ces discriminations, avec derrière les personnes qui sont d'origine étrangère ou perçues comme telles, qui vont être plus exposées de manière in fine au chômage, à la précarité, au mal logement, au contrôle policier ou à un état de santé dégradé ou encore aux inégalités scolaires. Je vais juste insister sur la question de l'emploi pour donner à voir cette question-là. Vous le savez peut-être, le Défenseur des droits organise chaque année avec l'Organisation internationale du travail un baromètre sur les discriminations dans l'emploi, qui est publié chaque année en décembre de chaque année, le dernier de 2024. On avait près de 17% de la population active qui déclarait avoir vécu des discriminations ou un harcèlement discriminatoire, puisque vous avez compris maintenant que le harcèlement discriminatoire est une forme de discrimination. 17% donc de personnes, ça allait dire salariés ou en tout cas actifs, qui déclaraient avoir subi des discriminations en raison de son origine, de sa nationalité ou de sa couleur de peau, et 18% sur le fondement de la religion. Je redis ce chiffre de 18% sur le fondement de la religion, parce qu'en 2023, dans notre baromètre, on était à 7% sur ce fondement-là, donc on sent qu'on a une grosse montée des discriminations sur ces enjeux-là, et sans doute un lien très fort entre l'origine perçue et la religion perçue également. Les saisines du défenseur, c'est évidemment aussi un moyen d'apercevoir les discriminations telle qu'elle se déroule dans le quotidien des personnes. Alors c'est un peu l'iceberg émergé, parce que c'est les gens qui vont avoir identifié une discrimination dans le quotidien et qui vont derrière avoir fait la démarche de nous saisir. Et on sait qu'on est par ailleurs trop peu connu encore dans la population. Donc c'est vraiment, on va dire, la partie immergée de l'iceberg, même s'il fonde beaucoup en ce moment. Et on a une augmentation assez préoccupante des réclamations fondées sur l'origine et la religion, ce qui témoigne sans doute d'une aggravation des tensions et peut-être d'un risque de banalisation des propos et des actes racistes et xénophobes dans la société française. Aujourd'hui, parmi nos saisines en discrimination, l'origine, elle est invoquée dans 15% des cas. C'est le deuxième motif, hein, faut le savoir, après le handicap. Mais si on rassemble les saisines origine, nationalité ou encore conviction religieuse, on est à 22%. Donc on devient, c'est pas forcément un prix très 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 joyeux, le premier critère sur lequel on est saisi en matière de discrimination. Et on a notamment noté, nous, un pic inquiétant, en tout cas d'appels. On a une plateforme téléphonique, le 3928, dédiée aux questions de discrimination. Et on a par exemple noté un pic inquiétant d'appels, hein, plus 53% entre mai et juin 2024, qui correspond à la période des élections législatives, avec beaucoup de propos et de comportements racistes, antisémites, islamophobes qui nous étaient rapportés, pour lesquels on n'était pas toujours compétent, mais pour lesquels on a pu réorienter les personnes. On a également des retours comme ça qui montrent qu'il faut maintenir la vigilance, voire la renforcer sur ces questions, via tous les échanges qu'on a avec les associations spécialisées sur ces questions et qu'on rencontre à minima, j'allais dire, deux fois par an dans le cadre de notre comité d'entente origine. Il faut se rappeler que les saisines, c'est vraiment une infime partie des problématiques de discrimination qui surviennent, parce qu'on a affaire à un non-recours massif en matière de discrimination. On a des études qui démontrent hein, vraiment que ce non-recours est très important et qu'il est par exemple plus important en matière de discrimination raciale que sur le handicap, sans doute parce que on a des discriminations plus voilées, moins tranchées et peut-être aussi un tissu associatif qui est moins solide sur les questions de discrimination fondées sur l'origine. D'où l'importance, évidemment, de saisir le défenseur des droits quand survient une problématique. Je le rappelle, hein, le défenseur des droits, il peut être saisi par mail, par courrier, en contactant les délégués, par toute personne. C'est gratuit, y compris un enfant ou un mineur hein, qui considérerait que ses droits sont lésés. Et je vous invite, bien sûr, à saisir ou à faire connaître la fameuse plateforme 3928 pour la plateforme téléphonique antidiscrimination.fr dont je vous ai parlé à l'instant, qui est un service de signalement et d'accompagnement dédié vraiment aux victimes de discrimination, avec un chat, avec un accès sourd et malentendant, et qui permet vraiment, c'est des juristes hein, qui sont à l'écoute et qui vont permettre vraiment d'accompagner, de prendre le temps, de conseiller la personne, de l'orienter le cas échéant, et éventuellement d'accompagner cette personne vers une saisine du défenseur des droits. Je rappelle enfin que la saisine du défenseur des droits est possible via les associations. Si elles le font au nom d'une situation qu'a vécue une personne individuellement, elles devront recueillir le consentement de cette personne, mais elles peuvent aussi nous saisir de problématiques, on va dire, plus systémiques ou liées à un texte, évidemment, qui poserait des difficultés. Je vais venir maintenant essayer d'illustrer un petit peu ces discriminations fondées sur l'origine, sans rentrer dans mille affaires, parce qu'il y aurait vraiment trop de choses à vous dire et pas assez de temps pour le faire. Ces affaires, vous le verrez, parfois on a affaire à des discriminations extrêmement explicites, d'autres un peu moins, et elles reposent sur la mise en œuvre hein, de stéréotypes associés aux individus en fonction de signes extérieurs. Hein. Ça va être la couleur de peau, les traits du visage, la texture de cheveux, le patronyme, le prénom, l'accent, ou encore des caractéristiques culturelles ou de lieu de résidence. Tous ces éléments qui vont être des signaux interprétés par les personnes et qui vont donner lieu à l'activation de stéréotypes. Et donc, c'est important de se rappeler que le degré d'exposition aux discriminations fondées sur l'origine, il est déconnecté en réalité de la nationalité étrangère des personnes, actuelles ou passées, et qu'elle ne se réduit pas en tout cas aux problématiques de parcours migratoire. La première manière qu'on a, nous, d'intervenir, on va dire, sur l'ensemble de nos réclamations, c'est la voie de la médiation. Qu'on utilise très largement en matière de services publics. C'était pas si évident de la mobiliser en matière de discrimination, mais on le fait aujourd'hui, notamment parce que les personnes, parfois, elles veulent voir résoudre leurs problématiques rapidement vis-à-vis de l'employeur, vis-à-vis de tel bailleur, plutôt que de se lancer dans un recours au défenseur avec une instruction qui serait prolongée. Et donc, évidemment, on essaye de faire en sorte d'agir auprès des mises en cause pour accepter ces médiations qui sont souhaitées. Mais le plus souvent, en tout cas souvent, en matière de discrimination, on va devoir déclencher nos pouvoirs d'enquête. Ce n'est pas systématique, hein, mais ça arrive sur un certain nombre de dossiers, notamment quand on voit que la voie amiable n'est pas une voie intéressante ou qu'elle n'a pas donné de résultats intéressants. On va instruire le dossier et là, le défenseur des droits a de larges pouvoirs d'enquête. Il va pouvoir demander des documents aux mis en cause. Par exemple, si c'est une discrimination dans le logement, on peut éventuellement demander quel est le dossier de la personne qui a été finalement pris pour voir si les justifications pour avoir refusé notre réclamant, a priori d'origine étrangère, elles sont réelles. Est-ce que la personne qui a été prise avait vraiment les revenus plus importants, avait vraiment plus de garanties? On peut aussi faire ça en matière d'emploi, où on peut demander des documents qui vont nous permettre de retracer les carrières des personnes pour essayer de comparer les carrières des personnes et éventuellement établir une discrimination dans la carrière. On va aussi demander des explications aux mis en cause. On peut encore les convoquer pour des auditions ou faire des vérifications sur place, et les personnes sont obligées hein, de nous répondre en la matière. On peut également faire en matière de discrimination des testings, ça peut être approprié dans certaines situations. Par exemple, j'ai un appel sur une discrimination au logement avec un propriétaire qui est suspecté donc de discrimination. On peut organiser un testing pour vérifier. Donc le testing, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, hein, on va monter deux profils, normalement, qui sont identiques à peu près en tout point, en tout cas très très similaires. Le seul point qui va différer, c'est justement la caractéristique de discrimination dont on cherche à vérifier qu'elle est mobilisée pour être pour pour discriminer. Donc si je fais un testing par exemple en matière de logement, on en parlait à l'instant, eh bien je vais avoir les mêmes garanties, la même composition familiale, mais par contre je vais pas forcément avoir le même nom de famille qui va traduire l'origine étrangère. Et si la personne donne une réponse qui n'est pas la même, on va dire au profil de la personne, du profil que j'ai construit, donc qui est une personne d'origine franco-française, eh bien, je vais pouvoir montrer qu'il y a une différence de traitement qui ne peut s'expliquer que par la prise en compte du critère prohibé. Donc, ça va m'aider à constituer mon fameux faisceau d'indices dont j'ai besoin pour établir la présomption de discrimination. Je vous en parle parce qu'on a mis en place une brochure qui invite les personnes elles-mêmes à réaliser ces testings-là, les associations à le faire elles-mêmes, parce qu'il faut être très réactif. Et souvent, quand on s'adresse aux défenseurs des droits, l'appartement est déjà loué, l'emploi est déjà pris et le testing, on ne peut plus le réaliser, donc il ne faut pas hésiter à le faire vous-même. Ça, c'est les pouvoirs d'enquête, les solutions qu'on peut apporter. Si on estime que la discrimination est caractérisée, au terme de notre petite enquête, qui est évidemment plus ou moins importante selon les nécessités des situations, on peut faire plusieurs choses. On peut d'abord faire des rappels à la loi, notamment sur des situations où on a déjà, on va dire, une doctrine bien balisée du défenseur des droits. On va rappeler au mis en cause le cadre applicable. On peut lui envoyer des outils pour lui rappeler qu'il faut faire comme ci et comme ça en la matière. Je vous donne un exemple récent sur une affaire de discrimination dans la prise en charge en établissement de santé. On a une réclamante qui s'adresse à nous, qui dit qu'elle a subi des discriminations lors de sa prise en charge par le service des urgences d'un centre hospitalier. Et elle déplore notamment l'utilisation de l'expression « syndrome méditerranéen » qui figurait au titre d'information médicale sur le compte-rendu de son hospitalisation. Et donc là, le défenseur des droits a instruit, s'est rapproché de la Société française d'études et de traitement de la douleur, notamment concernant ce fameux terme de syndrome méditerranéen. Cette société a bien confirmé, on s'en doutait un peu, que l'utilisation de cette expression par le soignant traduisait un préjugé qui repose sur le stéréotype stigmatisant selon lequel les personnes originaires du pourtour méditerranéen exagéreraient l'expression du ressenti de la douleur. Et par la suite, on a interrogé la direction du centre hospitalier sur la situation donnée. La direction de l'établissement a confirmé que cette expression s'était retrouvée dans le dossier de la patiente. Le praticien derrière a été informé que l'emploi de cette expression n'était pas tolérable et ne devait plus survenir. Il nous a été également indiqué que la situation serait abordée en commission médicale au sein de l'établissement, en commission des usagers, afin de rappeler ces règles déontologiques très fermes à l'ensemble des acteurs. Donc nous avons pris acte finalement de tout ce qui a été mis en œuvre suite à notre investigation. On n'avait pas encore pris une décision que déjà se mettaient en place des choses, et c'est très positif, dans ce centre hospitalier. Et on a évidemment quand même conclu à la discrimination, puisqu'évidemment que la mention problématique dans le compte-rendu laisse penser qu'au-delà de cette mention problématique, elle a été traitée de manière moins favorable que d'autres patients présentant les mêmes symptômes en raison de son origine, en l'occurrence. Et on a donc, afin de prévenir un renouvellement, on a rappelé les dispositions juridiques qui pourront notamment être rappelées dans le cas de ces différentes commissions de ce centre hospitalier. Ça, c'est un cas donc plutôt de rappel à la loi, avec, vous le voyez, une résolution qui se fait aussi au fur et à mesure de l'instruction du défenseur. Il y a aussi des décisions portant recommandations, où on va demander la mise en place de solutions pour résoudre le conflit ou donc il peut être une recommandation très individuelle de réparer un préjudice causé par la discrimination, mais ça peut être aussi des recommandations plus générales où on va demander aux mises en cause de changer sa pratique, voire même où on peut demander parfois une réforme des textes applicables. On a également des possibilités, si dans le cadre de notre investigation, on trouve qu'on a affaire à une discrimination tout à fait intentionnelle, dont on a finalement les preuves de l'intentionnalité, on va aussi pouvoir transmettre au procureur de la République les faits. Évidemment, après, c'est à lui qu'appartient de poursuivre ou pas le mis en cause en l'occurrence. Ce qui ne nous empêche pas, de notre côté, de prendre des décisions à son encontre. Je vous donne une affaire, là aussi, assez récente, de refus de location discriminatoire. On avait une personne qui nous a saisis, qui s'était vue refuser la location d'une chambre en colocation, en l'occurrence. Et en fait, donc, le propriétaire avait finalement refusé donc la colocation après avoir consulté ses documents d'identité, en précisant, il y a des idiots encore, hein, qui ne souhaitaient pas mélanger les personnes de cultures différentes dans la location. C'est évidemment une citation et pas un propos de ma part. Et donc, évidemment qu'on se tourne vers lui quand on est saisi de ça et qu'on constate ça, on se tourne vers le propriétaire, qui là tente de justifier son rejet de manière un peu plus légale, croit-il d'ailleurs, en disant qu'il souhaitait finalement uniquement louer à des colocataires filles. C'était un homme. Et donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, le réclamant, on a constaté que le réclamant avait fait l'objet d'une discrimination en lien avec son origine, sa nationalité, puis son sexe, puisque il y avait le dernier argument qui avait été transmis par le propriétaire. On a recommandé au propriétaire et à la société de location d'indemniser le préjudice subi par le réclamant dans un délai de 3 mois, ce qui a été fait. Le candidat discriminé a bien reçu une indemnisation financière, mais on a également transmis la décision au procureur de la République compétent. Dernier cas de figure sur les solutions qu'on peut donner aussi, j'allais dire, aux réclamations, c'est les décisions cadres, un nom un peu fort, où l'idée d'une décision cadre, c'est justement de ne pas traiter de saisine individuelle. Ce n'est pas une résolution d'une saisine individuelle, mais au contraire, quand on aperçoit qu'on a toute une série de saisines sur un sujet, et puis que les années passent et que ça continue d'être un vrai problème, et donc un problème structurel en la matière, eh bien, on se dit qu'il faut prendre des recommandations générales sur ce problème donc systémique, et donc on va adopter des décisions cadres. Je ne vais pas vous les citer toutes, hein, parce que sur les questions de discrimination fondée sur l'origine, il y en aurait plusieurs à citer potentiellement. Je vais vous parler juste de la dernière, qui date de février dernier. On a pris une décision cadre sur les dispositifs de signalement et d'enquête en cas de discrimination, qui est donc destinée principalement aux employeurs, privés comme publics, et qui leur redonne toutes les étapes et tous les droits à bien respecter pour correctement prendre en charge les signalements au sein de leur entreprise ou de leur administration et derrière enquêter avec toutes les garanties évidemment indispensables et le cas échéant sanctionner disciplinairement les auteurs de discrimination. Donc je vous invite évidemment à vous saisir de cette décision cadre pour améliorer les dispositifs qui peuvent exister, y compris au sein des administrations. Dernier cas de figure sur les décisions, c'est les décisions portant observation devant une juridiction. On a un réclamant qui nous envoie une saisine sur un problème de discrimination, mettons, même si on peut agir, on peut faire ses observations dans tous les domaines de compétence du défenseur des droits. Et il a par ailleurs saisi une juridiction, ça peut être le juge pénal, le juge administratif, le juge civil, évidemment, selon les situations. On nous transmet la saisine et nous, on va regarder cette saisine et on va décider, on sait qu'il y a un recours, on va décider d'aller porter des observations avec notre raisonnement devant la juridiction. Soit parfois, c'est même la juridiction qui est saisie par un recours et c'est la juridiction qui souhaite avoir l'expertise du défenseur en matière de discrimination et qui va donc nous solliciter directement. Je vais vous parler juste, je vais donner un exemple parce qu'on en a vraiment régulièrement des décisions portant observation devant les juridictions qui sont aussi intéressantes parce qu'elles permettent pour nous d'essayer de faire évoluer la jurisprudence sur certains points. Et ça a été notamment le cas, et c'est une décision intéressante, une décision de mai 2020 où on a fait des observations devant le tribunal judiciaire dans le cadre d'une procédure en responsabilité de l'État pour des contrôles d'identité discriminatoires. On avait 17 réclamants qui avaient saisi l'institution pour des contrôles d'identité très très répétés et des pratiques discriminatoires par les forces de l'ordre. Choisi de faire des observations après avoir évidemment mené nos investigations et on a porté ces observations devant la juridiction. Ça a été l'occasion pour nous de rappeler la jurisprudence qu'on venait d'obtenir par la Cour de cassation en 2016 pour dire que des contrôles d'identité réalisés sur la base de caractéristiques physiques associées à une origine sont discriminatoires et qu'il faut bien par ailleurs en ce domaine appliquer l'aménagement de la charge de la preuve. Et nous, on a rappelé que dans le cadre de notre investigation, on avait constaté que les réclamants avaient fait l'objet de procédures répétées de contrôle d'identité, de conduite au poste suivie de vérification, de palpation, de fouilles de sécurité, dont la plupart correspondaient à des pratiques non respectueuses de la procédure pénale et notamment du code de déontologie des forces de sécurité. Et donc, on a porté ces observations en soulignant notamment le caractère systémique des discriminations fondées sur l'origine à l'encontre de groupes entiers et que c'était bien la somme des pratiques qu'on avait constatées, la répétition des violations de procédures qui avaient été constatées donc à l'encontre de ces jeunes gens du quartier, je ne peux pas le donner puisqu'on respecte l'anonymisation, d'origine maghrébine et africaine, qui nous permettaient de reconnaître la discrimination. Le tribunal judiciaire derrière, dans son jugement, n'a pas reconnu la discrimination en tant que telle, mais a néanmoins retenu la faute lourde engageant la responsabilité de l'État en constatant que les contrôles d'identité étaient réalisés sans motif régulier, qu'il y avait eu des violences très établies et enfin qu'il y avait des transports et des rétentions en local de police en dehors de tout cadre prévu par la loi. Donc les requérants ont été indemnisés à la hauteur de plus de 40 000 euros outre les frais de justice sur ce point. Dernier point que je souhaitais aborder, c'est en matière de vous indiquer en matière de harcèlement discriminatoire, j'en ai parlé tout à l'heure, donc le harcèlement moral lié, puisqu'on parle de discrimination raciale, lié à l'origine, à la nationalité, à la religion réelle ou supposée, on a pu, nous, porter pas mal d'observations devant les juridictions en la matière, et on a permis d'élargir ce concept, d'abord de le faire reconnaître, et puis ensuite de l'élargir. Et aujourd'hui, un événement grave, unique, alors que dans la définition, c'est plutôt des actes répétés qui vont conduire à caractériser le harcèlement moral. Et là, en la matière, un élément grave unique peut permettre de conclure à la discrimination. Et en l'occurrence, c'était une affaire dont on avait été saisi et pour laquelle on avait porté des observations, où un travailleur avait eu la chance et le bonheur de découvrir son casier de travail avec une affiche portant un singe, avec son prénom dessus, et ses collègues qui, évidemment, l'avaient laissé toute la journée perdurer. L'employeur qui n'avait pas du tout réagi à la hauteur de la problématique. Donc je rappelle, les employeurs sont tenus à une obligation de sécurité et leur responsabilité est engagée s'ils ne traitent pas convenablement ces signalements et s'ils n'ont pas de politique de prévention. Et la Cour de cassation est assez exigeante à cet égard. Donc c'est des éléments à avoir en tête. Beaucoup de ce que j'ai dit, évidemment, fonctionne en matière de droit pour d'autres critères que celui de l'origine. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rappelé des chiffres qui montrent l'ampleur de ces discriminations fondées sur l'origine. Et donc il y a évidemment, au-delà du contentieux, l'importance de prévenir, de corriger ces discriminations structurelles. Je rappelle quand même les limites du contentieux. C'est lourd, c'est long, ça coûte de l'argent, c'est coûteux aussi évidemment psychologiquement, et puis on n'est jamais sûr évidemment de l'issue, surtout que vous l'aurez compris, c'est pas facile toujours d'obtenir des preuves de cette discrimination. Donc tout ne peut pas reposer, c'est une certitude pour le défenseur des droits, sur les victimes et sur leurs éventuelles démarches. On sera vraiment les derniers à reprocher à des personnes de ne pas faire des recours. Mais par contre, ça veut dire que pour nous tous, pour les acteurs, il y a une importance à se mobiliser et à ce que la lutte contre les discriminations ne repose pas sur les seules victimes. On s'y emploie au niveau du défenseur des droits. Déjà, on essaye de mobiliser les acteurs, pour ceux qui ignoreraient ces problématiques, de les mobiliser, de faire prendre conscience d'un certain nombre de problématiques de discrimination et de faire évoluer leurs pratiques. Ça passe à travers des études, notamment. Le défenseur des droits peut financer des études, des recherches, peut aussi réaliser des études lui-même. Je vous donne juste quelques exemples, et puis si ça attise votre curiosité, n'hésitez pas à aller vérifier tout ça sur notre site. C'est une étude du défenseur des droits qui a démontré en 2016 que les jeunes hommes perçus comme noirs ou d'origine immigrée avaient 20 fois plus de chances avec des guillemets, d'être contrôlés quand ils sortent dans la rue par les forces de police. Il y a une étude de 2023 qui a montré que les refus de soins par testing, en l'occurrence cette étude, que les refus de soins opposés aux bénéficiaires de l'AME restaient extrêmement importants. Et on va produire dans les prochaines semaines un rapport dédié aux discriminations dans l'accès aux soins et dans les parcours de santé, dans lesquels évidemment les questions d'origine et du syndrome méditerranéen notamment reviendront. On a pu financer des études qu'on appelle Acadiscrit sur les discriminations, l'ampleur des discriminations à l'université, mais aussi la problématique du recours. Quels sont les dispositifs de signalement que mettre en place les universités? Est-ce que les étudiants et le personnel universitaire a confiance dans ces dispositifs? Pourquoi il y a recours ou pourquoi pas? Et en l'occurrence, c'est surtout pourquoi pas. On vient de produire là une étude récemment sur l'accueil policier, donc le service public policier, comment on accueille les personnes dans des commissariats, dans des gendarmeries, et on constate que les personnes d'origine ou perçues comme d'origine immigrée sont parfois moins bien traitées quand elles entrent dans ces lieux. Ces études, ces saisines, ces discussions avec les chercheurs comme avec les associations nous amènent à porter des recommandations notamment concernant les politiques publiques où le défenseur des droits dit souvent, et le répète encore, qu'on manque d'une politique publique constante et dédiée aux discriminations liées à l'origine. On voit, et on est très content de ce qui est fait, de voir combien ça avance depuis quelques années sur les discriminations fondées sur le genre ou encore sur l'orientation sexuelle, mais le sujet des discriminations fondées sur l'origine, et donc c'est très bien qu'il y ait ce genre d'événement évidemment, reste peu investi et parfois l'objet d'évitement. On a constaté aussi qu'il y avait une forme de concurrence avec d'autres paradigmes parfois, comme la promotion de la diversité, le paradigme de l'inclusion ou celui de l'égalité des chances. Et nous, on tient à celui de la lutte contre les discriminations parce que la discrimination, elle est définie en droit, elle correspond à des droits pour les personnes et à des obligations également pour l'ensemble des acteurs. En l'occurrence, on trouve que la mobilisation politique sur ces questions, elle est très insuffisante, avec même des discours qui sont très problématiques parfois. Et on a tendance aussi à reléguer ces enjeux-là parfois au quartier politique de la ville, alors même que si on y trouve peut-être des victimes, les mises en cause dont il s'agit de rectifier les pratiques sont partout. Donc évidemment, il faut faire attention à tous les autres enjeux qui peuvent venir concurrencer et qui sont parfois des enjeux importants politiquement, mais qui ne peuvent pas remplacer la lutte contre les discriminations. Je pense par exemple aux enjeux républicains de sécurité, de laïcité ou encore de lutte contre la haine et le racisme, qui ne recouvrent pas, et j'espère que vous l'aurez compris, complètement les enjeux de lutte contre les discriminations. Alors on a depuis 2023 un plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, qu'on appelle plus prosaïquement le PRADO. Ça constitue évidemment une avancée, puisqu'auparavant, ce même plan n'abordait pas les discriminations et restait vraiment sur les enjeux de haine et donc les enjeux aussi très individuels hein, de ce côté-là. Mais toutes nos recommandations dans le cadre de l'élaboration de ce plan n'ont pas abouti. Je pense notamment à l'absence très problématique de toute mention dans ce plan relative au contrôle d'identité discriminatoire. Et puis on s'inquiète aujourd'hui du fait que le plan se termine en 2026, donc c'est bientôt, et un certain nombre de mesures qui étaient prévues risquent de ne pas être mises en œuvre. Évidemment, il y a aussi des enjeux locaux. Je suis bien placée ici aujourd'hui à Saint-Étienne pour le dire, où il y a un rôle très important des services déconcentrés, des collectivités territoriales en la matière pour s'investir sur ce sujet, sans forcément d'ailleurs à ce qu'on appelle à ce qu'il y ait des plans. Il faut des plans d'action qui soient cohérents, avec des objectifs fixés, des calendriers, des diagnostics qui permettent d'établir les situations, mais qui permettent aussi de mesurer les avancées liées aux actions qu'on réalise. Mais on n'est pas forcément, nous, partisans du fait qu'il faut forcément à chaque critère son plan et son action, d'abord parce que vous n'y arriverez pas, il y en a 26, hein, je le rappelle, mais surtout parce qu'il y a tout un tas de mesures qui sont à prendre et qui peuvent valoir pour l'ensemble des critères. Je parle bien sûr de tout ce qui est autour de la transparence des décisions, l'objectivation des décisions, la traçabilité des décisions. Tout ça, ça nous garantit, ça permet, garantie est un mot peut-être fort, mais en tout cas ça nous protège d'un certain nombre de problématiques, notamment d'actionner trop nos stéréotypes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous invite notamment à aller voir les fiches qu'on a sorties l'année dernière en février 2024 à l'issue d'un colloque qu'on avait réalisé sur la lutte contre les discriminations, qui était du recours individuel au levier systémique, où justement on essayait d'échanger autour des leviers de transformation un peu structurelle. On avait publié toute une série de propositions pour justement mettre en œuvre des politiques cohérentes et ambitieuses de lutte contre les discriminations, notamment dans l'emploi par exemple, mais pas seulement. Et ce qu'on dit notamment aux employeurs, c'est d'établir des plans d'action cohérents bien sûr, mais d'aller modifier. C'est sympa de faire des formations, c'est sympa de faire des testings, et évidemment il faut les faire, mais il y a des enjeux de transformation de leurs pratiques. Par exemple, à l'embauche, se dire qu'on ne reçoit pas une personne toute seule. À deux, peut-être qu'on verra les stéréotypes de l'autre. D'établir une grille qui permette d'objectiver un peu la manière dont on sélectionne les candidats, la manière dont on interroge les candidats et être sûr qu'on les interroge tous à peu près sur les mêmes questions et pas à chacun sa question, et parfois avec des questions d'ailleurs très problématiques. Donner aussi une traçabilité derrière, parce que si on a fait tout ce travail, on est en capacité normalement derrière de répondre à un candidat qui n'aurait pas été pris, pourquoi il n'a pas été pris, et pas je t'ai pas pris mais je ne sais plus pourquoi, et peut-être d'ailleurs je t'ai pas pris pour des mauvaises raisons. Voilà. Et tout ça, ce sont des pratiques de transparence, d'objectivation, de traçabilité. Là j'ai parlé juste du recrutement, mais qui peuvent être mises en place dans l'ensemble des domaines, et notamment par les employeurs publics. qui sont pas toujours les plus exemplaires, j'allais dire malheureusement. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, à lire notre contribution au rapport que la DGAFP vient de publier, son rapport biannuel sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique, dans lequel on a une contribution des défenseurs des droits qui fait un état des lieux des discriminations dans la fonction publique et des recommandations qu'on adresse. On ne se focalise pas que sur l'emploi. On peut avoir des outils qui permettent finalement de traduire les recommandations qu'on fait de manière un peu opérationnelle pour ceux qui veulent s'investir sur ces questions. Ça peut être un guide loué sans discriminer ou encore les outils loués sans discriminer qu'on va d'ailleurs prochainement, dans les semaines qui suivent, on va avoir un nouveau guide pour les professionnels de l'immobilier, une affiche, une brochure pour essayer de faire progresser toutes ces pratiques. Et donc le défenseur essaye d'être en contact tout le temps avec ces professionnels pour tenir compte de leurs contraintes et être le plus pratique, j'allais dire, dans les recommandations qu'on peut leur faire. Dernier élément aussi de transformation, il s'agit des avis et des recommandations qu'on peut porter où on demande là cette fois-ci des réformes réglementaires ou législatives. Donc là, il s'agit d'aller modifier des textes réglementaires ou des textes de loi. Alors soit il y a une proposition de loi ou un projet de loi qui est déposé à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et on constate que ce texte avance, va émis à l'ordre du jour et d'ailleurs peut-être adopté. Et soit on va se dire c'est un danger par rapport au domaine de compétences qu'on a, donc en termes de droits dont on tente d'assurer l'effectivité. Soit on se dit ça peut être un vecteur d'amélioration. On voit quelque chose, on se dit ça peut être l'endroit où on avait nous une proposition de réforme, ce serait le bon endroit pour la faire figurer. Et puis parfois aussi, ce sont les instances parlementaires qui vont nous demander à nous auditionner, à nous recevoir pour discuter de tel ou tel texte. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails parce que là, on est vraiment auditionné très régulièrement et on produit une série, de nombreux avis, et beaucoup en ce moment d'ailleurs. Mais j'en relèverai deux qui sont directement en lien avec notre sujet des discriminations raciales aujourd'hui. On a, et ça fait longtemps qu'on porte ces avis, un avis sur l'action de groupe. Je ne sais pas si vous connaissez ça, je parlais à l'instant des limites du levier contentieux. L'idée de l'action de groupe, c'est justement d'aller ensemble quand on constate qu'on est dans une entreprise donnée ou face à un bailleur, par exemple social ou d'autres problématiques. On est plusieurs à avoir les mêmes problématiques de discrimination et on va mener ensemble l'action en question. Et le juge, non seulement évidemment à terme, vous serez sans doute indemnisé, si évidemment la discrimination est caractérisée, si vous en apportez les éléments, etc. Mais non seulement évidemment on peut avoir une indemnisation à terme, comme dans le cas classique, mais l'intérêt de l'action de groupe, c'est que c'est, on n'en a pas encore qui ont abouti, c'est notre problème d'ailleurs. Mais l'idée, c'est que le juge, au terme de l'action de groupe, il pourrait ordonner la cessation de la discrimination. Donc vraiment ordonner en fait que la pratique qui est en cause soit modifiée, soit abandonnée ou transformée. Et ça peut être très intéressant, évidemment. Je fais lien avec mon deuxième sujet. On a produit des avis sur l'action de groupe parce que l'action de groupe est née en 2016 et on l'avait portée, mais la procédure est encore aujourd'hui beaucoup trop complexe. Je ne rentre pas d'ailleurs ici dans les détails très juridiques sur cette question, mais on continue de porter des recommandations importantes pour que cette procédure qui vise justement à pouvoir identifier et corriger des discriminations systémiques puisse enfin être effective, ce qui n'est pas le cas. Autre exemple, et j'en finirai là, de recommandations portant réforme que l'institution porte depuis quelques années également, c'est l'enjeu de la traçabilité des contrôles d'identité. Vous avez compris évidemment qu'on a nous réalisé des études inédites sur ces enjeux, démontrant, objectivant le profilage racial qui peut être réalisé en matière de contrôle d'identité. On a des saisines qui évidemment nous donnent à voir ces sujets-là. On a investigué, c'est particulièrement difficile à démontrer, mais on y est arrivé dans quelques affaires. Et il y a eu des jugements très inédits, on n'avait aucun jugement sur ce terrain-là avant 2016. Et aujourd'hui, on continue de demander que ces contrôles soient traçables, c'est-à-dire que les personnes qui sont victimes de contrôle d'identité, quelles qu'elles soient, puissent s'en plaindre, puisqu'en fait aujourd'hui elles n'ont aucun élément, ne serait-ce que pour prouver qu'elles ont été contrôlées. Donc évidemment, ça fait partie des réformes qu'on continue de porter, et que d'ailleurs le Conseil d'État, dans une décision qui était justement un recours en action de groupe dénonçant des contrôles d'identité, il a dit Je constate que les contrôles discriminatoires ne sont pas isolés, ce qui est quand même assez fort hein, comme expression pour le Conseil d'État. Et de la même manière, la Cour de cassation en 2016, qui avait donc condamné l'État pour des contrôles d'identité discriminatoires, avait également appelé le législateur, le juge ne peut pas remplacer le législateur, à mettre en place cette traçabilité pour assurer ce fameux droit au recours, qui est un droit fondamental important. J'ai essayé de vous dessiner à travers cette intervention à la fois mon institution auquel j'appartiens et pour laquelle je travaille avec beaucoup d'enthousiasme depuis quelques années, mais aussi vous donner à voir à travers nos travaux les problématiques de discrimination, leur ampleur, la manière dont elles se déploient et le travail qui reste à mener et auquel on contribue et on continuera évidemment de contribuer à vos côtés. Je vous remercie.